La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de la mêlée de l'info, l'émission consacrée à l'actualité nationale que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine. Trois invités encore aujourd'hui pour débattre autour des sujets que je vais leur proposer. Je salue la première venue à la mêlée de l'info d'Isabelle Hardy, conseillère municipale de Toulouse, conseillère métropolitaine de Toulouse Métropole, membre du parti Génération. À ses côtés, je salue aussi Françoise Laborde, ex-sénatrice de la Haute-Garonne, membre du Rassemblement démocratique et social européen. Et je salue, ou plutôt j'attends, Pierre Esplugas, adjoint au maire de Toulouse, membre du bureau de Toulouse Métropole et membre du Parti Les Républicains. Il est un peu en retard, mais il devrait arriver bientôt. Bienvenue à toutes les deux, merci d'être au rendez-vous. Après la non-censure du gouvernement Bayrou par le groupe du Parti Socialiste que préside Olivier Faure à l'Assemblée, choix qui avait déjà suscité la colère de la France Insoumise et de ses dirigeants, François Hollande est revenu lundi sur les tensions au sein du nouveau Front Populaire. Pour lui, la gauche radicale incarnée par Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas remporter la prochaine présidentielle. Il défend, je le cite, une gauche qui s'ouvre et qui fait des compromis. On rappellera que Jean-Luc Mélenchon a déclaré, après la non-censure décidée par le PS, que le Parti Socialiste n'est plus un partenaire, c'est un allié et encore de circonstances. Que pensez-vous des propos de François Hollande et de la ligne qu'il défend pour son parti ? Propos faisant donc suite aux dissensions déjà apparues entre Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon. Isabelle Hardy, vous soutenez le Front Populaire, en tout cas à cette heure. Je vous donne donc la parole.
Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors écoutez, oui, bien sûr, on y reviendra. Je soutiens le Front Populaire. Et par rapport à votre question, je crois qu'il faut peut-être prendre un peu de recul, j'ai envie de le faire en tout cas. Et il faut sortir la gauche du duel qui me semble mortifère entre Mélenchon et Hollande. Et depuis 20 ans, la gauche française se déchire entre ces deux courants qui se veulent majoritaires selon les périodes, mais aussi entre deux personnes antinomiques. Alors, depuis de nombreuses années, les deux se livrent à une guerre pour un leadership qu'ils ont pu incarner à une époque, mais qu'ils ne peuvent plus incarner demain. Et je crois que si la gauche s'enferme dans cette voie, elle prend la responsabilité de la défaite face à l'extrême droite. Aujourd'hui, la gauche et l'écologie se trouvent à un carrefour décisif, piégés dans ce duel entre des figures historiques qui incarnent, je crois, davantage les querelles du passé que les aspirations du futur. Et donc, nous, et notamment en génération, mais nous ne sommes pas tout seuls, nous proposons un chemin pour rassembler, transformer, gagner, dessiner les contours d'une rupture éco-socialiste ambitieuse et renouveler les pratiques politiques. Je crois que pour que la gauche et l'écologie soient au rendez-vous de l'histoire, on doit s'affranchir des vieilles lunes et des antagonismes dépassés. Aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on pense vraiment à articuler cette rupture autour, et c'est ce qui est important, des axes fondamentaux, la planification écologiste, le renversement des logiques productivistes, la lutte contre les inégalités sociales, territoriales, la démocratisation de l'économie, la protection du bien commun. Et je crois qu'il faut vraiment, au lieu de rester enfermé dans ce duel, essayer de construire un modèle où l'humain et la nature ne sont plus sacrifiés sur l'autel du profit. Je crois que ce sont là que les électeurs et les électrices nous attendent. Et puis, peut-être un dernier point sur aussi une nécessité de faire de la politique autrement. Également, je crois qu'il faut sortir aussi des pratiques politiciennes d'avant, des logiques d'appareil, des querelles d'ego, des stratégies court-termistes. Et puis, l'enseignement aussi des législatives, c'est que les associations, les collectifs, les syndicats, les mouvements citoyens doivent être considérés comme des forces d'appoint. Non, ne doivent pas être considérés comme des forces d'appoint, mais comme des partenaires à part entière. Et c'est ce dialogue avec la société civile qui va permettre de dépasser les divisions, d'élaborer un programme en prise avec les réalités du terrain. Et puis, arrêtons ces manies de la petite phrase, prenons de la hauteur, je crois que le contexte le demande.
Mais tout de même, pour revenir à la déclaration de François Hollande, est-ce que vous pensez qu'elle était à propos, surtout après donc que le Parti Socialiste n'a pas voté la censure contre le gouvernement Bayrou, ce qui avait déjà passablement agacé, pour ne pas dire vraiment énervé, Jean-Luc Mélenchon et les dirigeants de la France Insoumise? Vous pensez que c'était le moment pour François Hollande de dire ça ?
Non, je crois que, parce que ce que je vous ai dit, je crois que, bon, en plus, Hollande appelle Mélenchon Madame Irma, pourtant lui aussi, il nous fait la liseuse de Bonaventure, hein. Et je crois que, bon, il présente une vision de la gauche qui reflète davantage ses intérêts personnels que la réalité politique. Et je crois qu'il ne faut pas réduire la gauche à une opposition entre gauche radicale et gauche réformiste, parce qu'il ignore la pluralité des forces de gauche et d'écologie qui œuvrent pour une candidature commune. Il faut les deux. Il faut une radicalité, mais aussi il faut une réforme. Et je trouve que c'est une lecture simpliste qui nous a proposée.
Françoise Laborde, après la première intervention d'Isabelle Hardy, est-ce que vous, ce qu'a pu dire François Hollande à ce moment-là, vous pensez que c'était le bon moment pour le faire? Et est-ce que c'est juste ce qu'il a dit? Est-ce que vous y reconnaissez?
Alors non, je trouve ça un petit peu malvenu. Parce que, bon, par exemple, ne pas voter la censure, moi j'ai trouvé que c'était raisonnable. Donc chacun pense ce qu'il veut. On ne peut pas jouer tout le temps à censurer, parce que bon, même si le nouveau Premier ministre n'est pas la tasse de thé de tout le monde, et loin s'en faut, on ne peut pas dire tous les matins censure, parce que sinon on n'avance pas. Donc ça, c'est sûr que peut-être une censure au moment du vote du budget, etc., il sera temps de voir. Moi, je ne suis plus favorable, je ne suis plus parlementaire, je ne suis donc pas favorable au maniement de la censure, parce que les citoyens, les concitoyens ne s'y retrouvent plus non plus. C'est bien gentil, mais il fait jour. Ah ben, le lendemain matin est un autre jour, c'est clair, mais on ne sait plus où on est. Donc, les petites phrases, bon, le problème, c'est qu'on a quand même des grandes personnalités maintenant à l'Assemblée. Donc, c'est vrai que les petites phrases d'Attal, les petites phrases de Philippe, les petites phrases de Hollande, les petites phrases. Enfin, c'est pas comme ça qu'on construit un budget ou quelque chose. Donc, pour moi, les petites phrases, j'ai retenu par exemple celle d'Olivier Faure qui dit enfin libéré de Mélenchon, bien
oui,
sûr.
Oui. Hein. Oui, oui.
Moi, ça me fait sourire parce que, en tant que radical, j'ai jamais été au PS, j'ai été au Parti radical de gauche, etc. J'ai envie de dire enfin. Pardon, Isabelle, on a des points communs de temps en temps, mais là, le Nouveau Front Populaire, pour moi, c'était pas concevable. Parce que justement, je trouvais que c'était un mariage de la carpe et du lapin, surtout quand la carpe s'appelait Mélenchon. Enfin voilà, moi, j'estime que cet homme a fait une bonne campagne la première fois. Quand il a perdu et qu'à 20h, on a vu le rictus de l'homme qui a perdu au premier tour, je me suis dit, voilà le Mélenchon, le Jean-Luc Mélenchon que j'avais un petit peu vu. Parce qu'en fait, il est très bon tribun, etc. Mais après, il veut avoir tout le monde derrière lui. Et il ne permet pas, peut-être, ce que vous disiez, de fabriquer un programme et pas seulement des promesses. Parce que moi, aujourd'hui, ce que je pense, c'est que la troisième voie de la gauche, c'est enfin, donc enfin, bien sûr, à chaque fois, on fait des programmes, hein, mais il faut voir s'ils sont viables. Et c'est de faire un programme qui permettra de rapprocher des personnalités, mais pas des personnalités qui veulent tirer la couverture à eux. Et c'est ça le problème de la politique à l'ancienne. C'est que tu avais un nom, et tu te disais, bon, ben, derrière mon nom, allez, et tant pis si le programme est foireux. Aujourd'hui, vu quand même l'état de notre pays, il faut pouvoir faire un programme avec des promesses applicables, parce que on s'enfonce dans la dette. Bon, si on était le seul pays, ça se saurait. Sauf que là, c'est notre tour. Hein. Il y a eu la Grèce, il y a eu le Portugal, la France, on y est. Donc moi, je veux bien une gauche qui retrouve ses valeurs, qui mette en avant justement des choses pour les concitoyens les plus pauvres, au niveau des salaires, au niveau de la sécurité sociale, au niveau de plein de choses, tout en jouant un équilibre financier. Et donc les invectives, les « moi je ferai ci, moi je ferai ça », et la retraite, et le patim, et le patab, oh ben c'est sûr, il y a plein de gens qui courent derrière. Mais qu'est-ce qui va se faire vraiment? Que ce soit Mélenchon, que ce soit Hollande, que ce soit Olivier Faure, moi c'est ça, Je m'en moque de la personne qui va être devant. J'ai envie de regarder ce qui va être construit et faisable.
Alors, il y a quelqu'un de la France Insoumise, Éric Coquerel, pour ne pas le nommer, qui est député, qui a déclaré « François Hollande est là pour en finir avec le nouveau Front populaire ». Est-ce que le nouveau Front populaire peut survivre aux querelles d'égo, aux tensions et désaccords de plus en plus grands et de moins en moins dissimulés entre les dirigeants socialistes et insoumis ? Isabelle Hardy.
Alors, si vous me le permettez, oui. Je voudrais juste rebondir sur les propos de Françoise, parce qu'effectivement, et de parler de la censure, juste en quelques mots, puisque effectivement, Benjamin Lucas, notre député, et le groupe écologiste, et donc Génération, nous avons voté la censure, tout simplement parce que pour nous, Bayrou, c'est un Barnier bis, et que rien n'est clair sur les retraites, il n'y a aucune mesure écologiste, on revient sur le cumul des mandats, enfin. Mais simplement dire que le PS a fait ce choix qui n'est pas le nôtre. Bon, il y a quand même 8 socialistes qui ont
qui
voté
ont
comme nous.
Désobéi, entre guillemets.
Mais pour autant, moi, je ne prendrai pas cet événement comme excuse pour la désunion.
Voilà.
Donc, ça, je voulais le dire. Et pour autant, je pense qu'il fallait voter la censure. Mais ne prenons pas cette excuse-là. Je crois encore qu'il faut écouter le peuple de gauche qui attend autre chose et qui attend une candidature unique qui rassemble toutes les sensibilités, l'écologie, le socialisme, le féminisme et la lutte contre les inégalités, par exemple. Par rapport à votre question sur...
Qui rejoint de toute façon ce que vous venez de dire. Hein,
sur,
ça prolonge.
Oui, sur les propos d'Éric Coquerel. Et je réponds aussi aux propos de Françoise sur le nouveau Front populaire. Pour moi, c'était une nécessité politique. On l'a vu, et puis, à l'issue du Front populaire, on a vu aussi ce qu'a pu faire Lucie Castet. En quelques semaines, elle a pu devenir le symbole de l'Union. Je regrette que, effectivement, elle n'ait pas été appelée. Voilà. Mais pour moi, le nouveau Front populaire, c'est pas qu'une alliance entre partis, c'est une réponse à l'exigence de nos électeurs. C'était unir la gauche, l'écologie, pour faire face à la montée de la droite et de l'extrême droite, ainsi qu'aux défis sociaux et climatique. Et c'est vrai que les tensions, les désaccords, on n'est pas d'accord pour tout, bah sinon on serait dans le même parti. Mais entre certains dirigeants ne doivent pas nous faire perdre de vue l'essentiel. Le nouveau Front populaire représente encore aujourd'hui un espoir pour des millions de citoyens qui rejettent les divisions stériles et qui attendent des solutions concrètes et collectives. Et donc, les déclarations d'Éric Coquerel sur François Hollande ou celles aussi de certains dirigeants socialistes sur la France insoumise ne servent qu'à alimenter les divisions internes et au final renforcent nos adversaires. Et ces phrases-là, elles profitent à qui ? Elles profitent à la droite, à l'extrême droite.
Qui ferme sa bouche et
voilà.
Qui attend.
Qui compte sur nos fractures pour se maintenir et pour progresser. Et donc, on a, j'ai l'impression de me répéter, mais je pense que c'est important, une responsabilité collective de dépasser les égos, les tensions, les ambitions personnelles et construire une dynamique politique qui est tournée vers l'intérêt général. On a une pression démocratique et nos électeurs ne nous pardonneront pas l'échec. Alors, je pense que le nouveau Front populaire va continuer à vivre parce que nous n'avons pas d'autre alternative. Et les Français et les Françaises, ils veulent une gauche unie, mobilisée, qui est capable de construire une alternative crédible face au libéralisme destructeur et au danger du fascisme. Donc, en fait, chaque désaccord entre dirigeants aujourd'hui, elle est perçue comme une trahison de cet idéal. Voilà. Donc, moi, j'appelle à un avenir commun au-delà des tensions. Alors, bien sûr, il y a des divergences. J'en ai pas dans le pays des bisounours. Mais je crois qu'on peut gérer ces divergences de manière constructive dans le respect des engagements que nous avons pris ensemble. Je crois que le NFP, c'est pas un caprice, c'est pas un caprice de dirigeant, c'est une nécessité historique et populaire.
Françoise, d'abord, vous qui n'êtes pas au Nouveau Front Populaire, vous y croyez au fait que les dirigeants socialistes et insoumis vont arriver à dépasser leurs querelles et puis surtout à un peu mettre en sourdine leurs ambitions personnelles pour jouer collectif ?
Alors, je ne sais pas. Je le désirerais. Je pense que là-dessus, bien sûr que je ne peux que suivre Isabelle parce que mon cœur est plutôt à gauche qu'à droite. Mais, pardon, j'ai quand même l'impression que Jean-Luc Mélenchon a entraîné le NFP dans une extrême gauche qui n'est peut-être pas favorable après avoir... Est-ce que, après toutes les bêtise, parce que je dis, je serais vulgaire, hein, donc il ne faut pas être vulgaire hein, sur l'antenne, qu'ils se disent, toutes ces invectives, comment reconstruire avec les mêmes personnes. En fait, moi, c'est ça. Parce que pour moi, Mélenchon représente maintenant l'extrême gauche, comme Marine Le Pen représente l'extrême droite. Je suis désolée, ce n'est pas sympa pour Mélenchon, mais je les mets. Voilà.
Vous n'êtes pas la seule observatrice voilà. politique à dire faire ça. Ce diagnostic.
Mais c'est dangereux de faire
oui,
ça, François.
Mais c'est dangereux. Mais du coup, c'est vrai que est-ce que la gauche qui doit se reconstruire. Alors, c'est comme la droite, hein, sur un champ de ruines. Voilà. Est-ce que la droite va aller chercher l'extrême droite pour être élue? Et est-ce que la gauche doit aller chercher Mélenchon pour être élue? Moi, c'est mon point de vue. Je suis issue, et tu le sais, du Parti radical de gauche. Et j'ai dit merci Guillaume Lacroix de ne pas rejoindre le NFP, le Nouveau Front Populaire, justement. Mais moi, excuse-moi, mais c'est viscéral. Si Mélenchon reste comme un leader qui se prend pour le roi du monde, et là aussi je suis gentille, pour moi je ne peux pas. C'est pour ça que je te parlais de programme, de réunion. Bien sûr que moi j'étais très contente que l'EPS, les communistes, parce que je connais des tas de communistes qui sont justement des personnes qui ont une réflexion intéressante et intelligente, où les écolos se réunissent. Mais quand on a quand même déjà quelques images antérieures aux dernières législatives, quand même, ce cinéma à l'Assemblée nationale, et je ne critique pas ni les personnes, ni l'habillement, ni le physique, etc. Vous me connaissez assez, j'ai un caractère entier, mais jamais je ne me permettrai ce genre de remarques. Mais sur le fond, alors bien sûr qu'il y a quelques personnes qui ont du fond, mais ce n'est pas cela qu'on entend finalement. Ils se laissent prendre, mais comme Hollande, comme on a trop de personnalités qui ont des égos plus ou moins démesurés et qui tuent la politique. Moi, je vais vous dire ce que je pense de l'Assemblée nationale, c'est qu'ils s'écoutent parler et c'est pour leurs followers qu'ils parlent, pas pour échanger entre eux et construire un amendement, le voter, ne pas le voter. Franchement, je suis très heureuse de ne jamais avoir été députée, et ça, je vous fais une promesse, je ne le serai jamais. Parce que ce n'est pas possible de s'invectiver au lieu d'échanger et de construire. Je suis désolée.
Ce que dit François Zabord, Isabelle Hardy, là, vous l'entendez? Est-ce que vous contestez sa vision des choses ou...
Alors moi, ce que j'entends, c'est que d'abord, là où je ne suis pas d'accord avec François, c'est qu'effectivement, pour moi, la France Insoumise n'est pas un parti d'extrême gauche, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. Et je pense qu'effectivement, c'est dangereux d'agiter quand même ce siphon rouge. Mmh. Bien sûr, c'est une gauche qui est... peut-être plus à gauche que tu ne l'es, mais pour autant, c'est une gauche qui n'est pas une gauche d'extrême gauche. Et par rapport à ce que tu dis, ben finalement, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que arrêtons, moi, je n'ai pas envie de choisir entre Mélenchon et Hollande.
Eh ben,
donc,
clair.
Il y a effectivement tout un travail qui est fait, il y a cette voie, effectivement, de ce dépassement de toutes ces forces de gauche et écologistes pour faire en sorte, dès à présent, de travailler sur une candidature unique, porteuse d'un projet commun et qui... dépasse en fait toutes ces querelles d'ego et ses ambitions personnelles.
Alors François Hollande, lui,
et ceux qui a bordélisé, excusez-moi, j'ai pas
dit,
est-ce qu'il y a juste ceux qui a,
non,
non, je voulais
parti,
pas dire bordélisé, mais c'est celui en fait qui a l'initiative de ce bordel.
Voilà.
C'est puisque je l'ai dit, c'est quand même Macron. Hein. Personne ne lui a demandé de dissoudre donc
ça là tu on est d'accord
donc,
alors, effectivement on l'a déjà dit plusieurs fois
voilà. Donc oui je crois que voilà
là tu on est d'accord
oui.
Alors moi juste ce que je voulais dire, pardon Eric, mais tout à l'heure en me préparant un peu puisque tu nous envoies toujours les questions un peu pour qu'on sache évidemment de quoi on parle ce soir, je me suis amusée en fait à dire c'est comme les maths modernes quand j'étais petite, alors je suis un peu plus âgée que vous, sur les patates. En fait tu as un programme un socialiste, un programme écolo, un programme communiste, enfin, etc., et LFI. Et là où je parle des patates, c'est qu'on faisait les maths modernes, et au milieu, tu avais ce qui est le dénominateur commun. Les gens se retrouvaient. Bon. Et c'est ça qu'il faut construire. Et là-dessus, Isabelle, on est complètement d'accord. Parce que t'as la patate machin, la patate truc, la patate bidule. Mais au milieu de ces patates, quand on faisait les dessins, on les fait en maternelle aussi, hein, pas seulement. Ben, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et je pense, hélas, je mets le hélas, qu'il va peut-être falloir encore un petit peu de temps pour que les citoyens jeunes ou moins jeunes ou etc. qui ont compris ça et qui ont envie de ça, et les citoyens qui restent à l'ancienne avec les politiques à l'ancienne, je ne sais pas si on sera prêt pour la prochaine présidentielle. Voilà, je le dis, j'ai envie, hein, mais est-ce qu'on sera prêt?
Et moi, je pense qu'il faut se donner les moyens et je pense que on peut être prêt. Parce que moi, j'ai vu une véritable évolution, notamment de la participation et de l'engagement, et notamment citoyenne, lors des dernières législatives. Pour la première fois, j'ai vu des syndicats, des associations, des citoyens, pas forcément ni encartés ni dans des assos, avoir envie de s'engager. Mmh. Et quand je dis s'engager, c'est participer à ces combats communs, participer à la construction de projets, et pour autant ne pas forcément avoir envie de s'encarter dans un parti classique. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, les Français et les Françaises ils sont prêts. Et quand je disais on a un enjeu avec tous ces partenaires, les partenaires sociaux, les associations, les syndicats aujourd'hui, il faut aussi les embarquer dans cette construction-là. Et je pense que 2027, on sait, le temps politique, c'est loin encore.
Oui, surtout qu'il y aura les municipales. Alors, et c'est là qu'on arrive à la question.
Je voudrais en parler justement parce que la question qui est derrière tout ça, c'est la viabilité de l'union de la gauche. Bon. En vue de 2027, mais avant, effectivement, il y a 2026, les municipales, c'est dans à peine plus d'un an, mars 2026, donc on est presque déjà à l'entrée de la dernière ligne droite. Quelles conséquences pourrait avoir au niveau local, et quand je dis niveau local, attention, je ne parle pas de Toulouse seulement, je parle de toutes les grandes villes françaises, et même les petites, quelles conséquences pourrait avoir au niveau local ces dissensions entre les leaders nationaux du Parti Socialiste et de la France Insoumise, notamment en vue de candidature d'Union de la Gauche pour les municipales en 2026. Alors ça, je pense qu'Isabelle Hardy, vous y avez déjà beaucoup réfléchi.
Un peu. Et de façon générale, effectivement, après je reviendrai peut-être avec l'exemple de Toulouse, mais de façon générale, ces municipales sur le plan national, alors c'est au-delà des conséquences, c'est plutôt une responsabilité que vont avoir tous les territoires, parce que je crois que les municipales vont être un laboratoire de ce que pourra être 2027. Ça va être vrai à mon avis à Toulouse, mais c'est vrai sur l'ensemble des territoires, et c'est vraiment pas neutre. Donc pour moi, le national et le local, c'est quand même deux choses différentes, mais ce qui va se jouer sur les territoires, c'est important, et ça peut effectivement impacter ce qui va se passer en 2027. Donc il faut être innovant et intelligent. Si aujourd'hui on reproduit ce qui est en train de se passer sur le plan national, sur le plan local, alors ça va être très compliqué. Pour Toulouse, concrètement, parce qu'on est peut-être face à des auditeurs qui connaissent mieux aussi Toulouse. Aujourd'hui, personne n'est capable d'être majoritaire. Donc, je parle de la gauche et des écologistes, personne n'est capable d'être majoritaire. Même si, effectivement, si on regarde les résultats et le poids de certains partis dans les dernières élections, il y a des poids qui sont plus importants que d'autres, bien sûr. Mais l'époque où il y avait un parti hégémonique qui décidait et personne ne se posait l'action, c'est fini.
Mais le parti en question à Toulouse, en tout cas, c'était le Parti Socialiste.
Bien sûr.
Et dans beaucoup d'autres villes.
Mais bien sûr. Et donc, c'était simple. Enfin, c'était simple. C'était comme ça. En 2008, puisque je l'ai vécu en 2008, à l'époque, c'était très simple. Enfin, c'était simple.
Non,
c'était pas simple. C'était pas simple de gagner. Je vais y revenir.
Non.
Mais pour autant, au niveau d'une désignation, etc., c'était le Parti Socialiste qui menait la liste, à charge à l'époque pour Pierre Cohen de gagner son investiture au sein de son parti, et ensuite ça roulait. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il faut que on innove. Si on veut gagner, c'est vrai, je pense, sur le territoire national, mais si on veut gagner Toulouse à gauche, il n'y a pas 36 solutions. Et l'histoire l'a montré, notamment en 2008. Il faut une union la plus large de la gauche et des écologistes. Et ça passe d'abord par un projet. Parce qu'effectivement, ça ne se fait pas comme ça. Ça passe par un projet. Alors, le projet ne fait pas tout. Mais un projet, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle vision on a de Toulouse? Quelle rupture on veut mener par rapport à Jean-Louis Moudenc? Quelles sont les lignes rouges? Parce qu'on parlait de... Bien sûr, il y en a. Mais sommes-nous capables de les dépasser ou pas? Mais on ne peut pas préjuger en disant c'est pas à nous de faire... Il ne faut pas se tromper, il ne faut jamais se tromper d'ennemi. Ce n'est pas à nous de faire le ménage dans la gauche. Donc moi, j'ai envie de le prendre sur le projet et après sur une gouvernance. Je crois que pour la première fois, il va falloir innover aussi sur la gouvernance. Toulouse, la métropole, comment on fonctionne. Voilà, donc là, en l'occurrence, je pense qu'on a un grand chantier. Hein. Là encore, je disais...
Je ne doute pas qu'il soit déjà ouvert.
Voilà. Et ben, il faut l'ouvrir, oui, parce que comme vous le disiez, on est quand même à moins de 18 mois.
Même pas 15 mois. Françoise Laborde, vous qui avez été le Blaine, pas à Toulouse, mais quand même, à la base, comme vous l'avez dit, vous êtes une femme de gauche. Comment vous voyez les choses entre le national et le local? Vous pensez que ce qui est vrai au niveau national ne l'est pas forcément au niveau local, en tout cas pas partout?
Alors moi, je pense que ça ne l'est pas forcément. Parce que, justement, les personnes qui se présentent au niveau local sont des personnalités et pas des personnes qui se prennent... Voilà, donc ça, des personnalités qui ont travaillé, qui sont connues ou qui se sont fait reconnaître. Quand on fait une liste, on prend des personnes qui ont des compétences. Alors, bien sûr, une liste de gauche, une liste de droite, une liste centriste, ce n'est pas tout à fait les mêmes personnes. Mais je pense qu'aujourd'hui, une tête de liste doit vendre des compétences. Et comme disait Isabelle, un programme. Donc, un programme, et ce que je disais moi tout à l'heure, un programme viable. Parce qu'on n'est plus à une époque où on peut promettre tout et n'importe quoi. Donc, c'est vrai que c'est une vision de sa ville. Que cette ville s'appelle Toulouse, Blagnac, Vaucanville ou Saint-Gaudens, c'est une vision de la ville qui se met en place sur un mandat à minima de 6 ans. Et on sait très bien que quand on est élu d'une commune, on apprend la patience. Je pense que c'est pas Isabelle qui me contredira. Mon premier mandat à la ville de Blagnac, mais j'ai cru devenir folle. Je disais, non, mais c'est pas possible, il faut passer par... Mais oui, mais ce sont aussi quelquefois des sécurités, des garde-fous. Donc, quelquefois, les appels d'offres et tout ça, c'est lourd, justement, quand on a une vision et quand on se dit que la vision, avant de pouvoir la mettre en place... Mais donc, ce sont des personnes, des citoyens appartenant à des associations ou pas, des personnes qui se sont engagées et qui peuvent être sur une liste, avec des compétences. Alors, des compétences d'urbanisme, des compétences autour de l'écologie, autour des transports, autour des finances. Parce que je crois quand même, ce qui va impacter, c'est pas tant Mélenchon, Hollande ou quoi, c'est notre économie. Parce que les communes, quand même, touchaient pas mal d'argent de l'État. Le conseil départemental, le conseil régional. Donc je pense que cette vision, elle doit être quand même en amont, travailler un petit peu avec les autres collectivités qui elles-mêmes n'ont plus autant d'argent à donner.
Maintenant tout le monde est concerné.
Voilà. Et donc si on veut faire du social, c'est vrai que le conseil départemental a une vision qui est intéressante et importante dans les choix d'une commune. Donc tout ça, je pense que ça va se tricoter et c'est pour ça que ça, c'est pas vraiment les égaux pour moi qui vont avoir une influence et les partis politiques comme ils étaient, tu prends tant de socialistes et tu prends je crois que ça c'est une vision à l'ancienne ou alors c'est pas la peine de se dire qu'on veut changer.
Mais est-ce que les dirigeants locaux d'un parti auront les coudées franches par rapport aux desiderata de leur bureau national? Isabelle Hardy, ça risque pas de jouer tout de même, ça?
Alors écoutez, j'ose espérer qu'effectivement, sur le plan local, les partis pourront effectivement, en fonction des spécificités de chaque territoire, décider ce qui est le mieux pour le territoire. Là, je ne veux pas parler, et puis surtout, chaque parti a sa façon de fonctionner. Je sais que chez Génération, effectivement, on aura bien sûr une autonomie dans le cadre effectivement des valeurs qui sont défendues par génération. Mais Georges espérait qu'effectivement le local, comme pour vous reprendre votre expression, aura les coudées franches. Et puis ce que tu disais, Françoise, est important, c'est que aujourd'hui, lorsque on travaille sur une liste, il y aura effectivement les partis qui ont une responsabilité dans cette union. Mais aujourd'hui, c'est pas comme il y a 15 ans où effectivement il y avait. C'est comme ça que moi je suis arrivée sur la liste de Pierre Cohen, parce qu'il y avait un quota de personnes de la société civile. Et en l'occurrence, qui devait être une femme plutôt issue du milieu du développement économique, et chaque parti avait un quota.
Les compétences aussi.
Et aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, c'est une co-construction des partis et de la société civile. J'aime pas beaucoup ça, mais des associations, des citoyens, des syndicats. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui de personnes qui ne sont pas dans des partis, mais qui sont dans des mouvements, dans des associations. Et je crois que aujourd'hui, c'est une co-construction à laquelle il va falloir s'atteler, ce qui était complètement impensable il y a 15 ans.
François, d'abord, vous pensez, par exemple, que les représentants de la France insoumise à Toulouse pourront s'affranchir de ce que pourrait leur dire Jean-Luc Mélenchon au niveau national? Quoi qu'il arrive, tu te présentes, que ce soit en tant que candidat de l'Union de toutes les gauches, ou s'ils veulent pas, tu y vas tout seul. Est-ce que vous pensez qu'ils pourront s'affranchir de ça?
Moi, ça me paraît un peu fou, parce que tout seul... il va en falloir des citoyens convaincus,
donc moi ça me paraît. Il y a le premier tour, mais ce qui comptera quand même, c'est de faire le rassemblement.
Il y a quand même là une forme d'utopie, et c'est pour ça que quand je dis moi et les filles, c'était pas ma tasse de thé, parce que c'est générique et la représentation que j'en avais surtout à l'Assemblée nationale. Mais j'allais dire, et là pardon, je vais être vulgaire aussi, il y a des cons dans tous les partis et il y a des gens bien dans tous les partis. Donc si sur une liste de Toulouse, sur une liste d'Aussaune, sur une liste de je ne sais où, il y a une construction avec des LFI, c'est ça la différence aussi entre le national et le local. Mais je ne crois pas, peut-être je me trompe complètement, mais je ne crois pas qu'une construction LFiste à la Mélenchon puisse gagner toute seule. Enfin voilà. C'est pas possible, quoi. C'est pour ça que Mélenchon a tort de dire, eh ben, si c'est ça, vous êtes plus partenaire, mais attends, reste à Paris, vis ta vie, invective qui tu veux, et laisse-nous construire sur les territoires, avec des gens intelligents et qui viennent de différents horizons, ou plutôt de gauche, ou plutôt de droite.
Isabelle Hardy.
En réaction, moi, je pense que la dynamique, elle se fait au premier tour. Et c'est vrai que par expérience, en 2008, peut effectivement faire une union au deuxième tour, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et les Toulousains et les Toulousaines en ont assez aussi des discussions et des accords techniques, ce qu'ils veulent, c'est des accords politiques. Donc en amont, il faut arriver, on a encore assez de temps pour
se mettre.
Faut tout faire pour faire l'union avant le premier tour. Et c'est vrai que, et là, moi, je ne ciblerai aucun parti politique, mais si un parti, quel qu'il soit, dit c'est moi, j'y vais tout seul, voilà. Est-ce que, je poserai la question, vous voulez témoigner ou vous voulez gagner? Et je crois que aujourd'hui il faut tout faire. Et moi c'est vrai que il faut aussi, on doit aussi une sincérité vis-à-vis des électeurs et des électrices.
Oui, parce qu'on a quand même vu quelques mariages au deuxième tour.
Mais si on dit effectivement que depuis des années on considère qu'on a un autre projet alternatif à celui de Jean-Luc Moudenc, que l'on considère que on n'a pas la même vision, que l'on veut avoir une ville pour toutes, pour tous, avec des services publics, avec de la mobilité, avec une priorité sur l'éducation, sur l'urbanisme, sur la culture. Il faut se donner les moyens de.
Oui. Quand vous, François Hollande, je reviens à lui, excusez-moi, dit qu'il y aura en 2027, en admettant que la présidentielle aura bien lieu en 2027 comme c'est prévu, qu'il y aura deux candidats de gauche. La gauche radicale, qui avant était le Parti communiste, c'est assez curieux cette allusion, et qui est aujourd'hui représentée par Jean-Luc Mélenchon, puis il y aura une candidature de la gauche réformiste. Alors je ne sais pas s'il voit juste, mais est-ce qu'il ne vous savonne pas un peu la planche, même pour votre union de la gauche?
Moi je trouve qu'il se trompe. En prétendant qu'il y aura deux candidatures distinctes de gauche en 2027. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, ça correspond ni aux aspirations des électeurs, ni à la nécessité historique de construire une alternative crédible face aux crises actuelles. Donc, encore une fois, pour moi, il est impératif de travailler dès maintenant à une autre candidature unique. Et effectivement, en l'occurrence, il faut à la fois ce que je vous disais tout à l'heure, à la fois une rupture, bien sûr, mais à la fois des réformes. C'est pas ou l'un ou l'autre, et je trouve que c'est stérile d'opposer les deux.
Quand il dit ça, François Hollande, il prêche pour sa paroisse, vous pensez?
Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Isabelle. Là, on est parti sur des choses. Il y aura peut-être trois candidatures.
Parce que lui, il acte le fait qu'il y a deux gauches irréconciliables, et que bon, il faut faire avec.
Est-ce que c'est lui la personne la plus appropriée? Est-ce qu'on reverra venir « Je vais être une peste, notre chère Ségolène » Est-ce que... Non, mais voilà, je veux dire, il peut y avoir plein de candidatures. Et s'ils ne se sont pas parlé avant, des gens qui vont sortir, puis ça peut être un communiste, ça peut être... on ne sait pas. Et il y aura de toute façon, enfin ça m'étonnerait, qu'il y ait une candidature unique de la gauche...
En 2027
Enfin voilà, moi j'ai un peu de mal à y croire. On a tout essayé quand même. Comment on appelait ça d'ailleurs? Avant là, les...
Ah, la gauche plurielle, vous voulez dire
Oui, voilà, bon, on a essayé des choses. Et puis au dernier moment, les candidats finalement qui devaient se rallier devant...
Il suffit toujours qu'il y en ait un qui fasse un pas de côté.
Et au dernier moment, t'en avais un qui faisait un pas de côté. Moi, je trouve que c'est trop tôt pour prédire. Je ne suis pas Madame Irma, quoi.
Sauf si François Hollande s'y voit déjà en tant que candidat avec la gauche réformiste.
Il peut s'y voir.
Revanche, par rapport à ce que vous disiez sur les gauches irréconciliables, pour moi, vraiment, théoriser sur les gauches irréconciliables, c'est vraiment un danger, en fait.
C'est un cadeau
que l'on
fait.
C'est pour ça que je disais qu'il vous savonne la planche. Là,
à la droite et à l'extrême droite, en fait. C'est ces forces politiques-là qui vont peser sur nos divisions. Elles savent que, en fait, que seule la gauche unie est capable de leur barrer la route. Donc, en fait, c'est un discours, pour moi, qui affaiblit le camp progressiste et qui détourne l'attention des véritables adversaires.
On va clore la conversation sur ce premier sujet. Bon, il est fort possible qu'on ait l'occasion de revenir prochainement sur les bisbilles plus ou moins grandes entre le PS et la France insoumise. Pause maintenant dans cette émission. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de secondes pour un deuxième débat avec mes deux invités. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Et nous revoici à l'antenne. Je suis toujours en compagnie d'Isabelle Hardy et Françoise Laborde. On espère l'arrivée de Pierre Esplugas. Le second sujet que je vous propose ne relève pas de la politique politicienne, mais il est grandement politique tout de même. Ceux qui fréquentent les réseaux sociaux sont bien au courant. À la veille de l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche, se sont multipliées les annonces invitant à quitter le réseau social X, dirigé, si vous ne le savez pas, par Elon Musk, le milliardaire, multimilliardaire et un des principaux soutiens du nouveau président américain, nombre de personnalités publiques ou politiques, des journalistes ou de simples citoyens inscrits sur l'ex-Twitter ont fait part de leur intention d'abandonner ce réseau, enjoignant même souvent ceux qui les suivent à faire la même chose. Qu'est-ce que vous inspire cette campagne et quelle est votre position personnelle à l'égard du réseau X, que vous y soyez inscrit vous-même ou pas d'ailleurs? Françoise, d'abord, je ne sais pas si vous êtes confrontée à ce qui semble bien être un cruel dilemme, quitter X ou y rester.
Alors, pour moi, ce n'est pas un dilemme, parce que pour l'instant, à court terme, j'ai bien l'intention d'y rester.
Donc vous y êtes déjà.
Donc j'y suis, j'y suis depuis 2008. Quand je suis allée, je suis devenue sénatrice et je me suis dit que pour justement des infos rapides, avoir aussi recours à certains journalistes qui regardaient, justement, c'était un bon moyen de communication avec pas beaucoup de, puisqu'on a ajouté le nombre de signes petit à petit, etc. Mais ça renvoyait aussi sur mon site, les journalistes utilisaient quelques phrases. Et à nouveau, là, nous n'étions pas dans un monde d'invectives. Donc, bien sûr qu'il y a toujours eu des fake news. Bon, là, elles sont... c'est la folie, le nombre de fake news. On se demande où on trouve de l'information. Alors oui, l'arrivée de Trump est inquiétante avec
Elon Musk à ses côtés.
Mais je me dis que, bon, ce qui pourrait être aussi un problème, c'est l'intelligence artificielle. Parce que là aussi, on en fabrique des fausses informations, hein, parlons français.
Et même des fausses photos.
Des fausses photos, des fausses informations, etc., etc. Donc, pour l'instant, moi, je fais partie des personnes qui font le choix de rester parce que, bah, par exemple, il faut plutôt lire et choisir les personnes. Moi, je continue à lire certaines personnes, je continue à regarder. Alors, Le Monde, Libération, tout ça, ils disent, on s'en va. Bon, bah, très bien. Mais moi, quand je ne suis pas de l'avis de Sandrine Rousseau, qui dit, on se lève, on se casse. Moi, je suis plutôt de l'avis du président de l'ARCOM, donc qui y voit plus... le président de l'ARCOM, hein, c'est le régulateur de l'audiovisuel. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer puisque j'étais vice-présidente de la commission culture au Sénat à l'époque. Et c'est vrai que moi, je suis plus dans cette logique-là, c'est-à-dire que faire de la résistance en se cassant la chaise vide, pour moi, ça n'a jamais été la résistance. Moi, quand je combats pour quelque chose, j'essaye, alors à mon niveau, c'est sûr que ce n'est pas Françoise Laborde qui va changer la face du monde du Twitter. Mais en même temps, si on se casse tous... Il y aura autre chose. Regardez, par exemple, quand on a dit « Oh, WhatsApp, c'est dangereux, il faut ci, il faut là. » Les gens signalent, ça a été un flop. Les gens, finalement, sont restés sur WhatsApp. Il faut choisir ses amis, il faut choisir... Évidemment, il faut se border, il faut mettre plein de conditions. Enfin, moi, en tant que Françoise Laborde, ancienne sénatrice, qui a usé, utilisé, à bon escient, je l'estime, Twitter qui est devenu X, moi je reste. Parce que mes combats féministes, je les fais toujours de l'intérieur, je me casse pas. Mes combats laïques, je reste toujours à l'intérieur, je me casse pas. Donc là, je me casse pas. Même si je suis encore qu'une toute petite chose sur ce grand nombre de personnes.
Alors, Pierre Esplugas est arrivé, je le salue. Alors, je précise qu'il avait un rendez-vous médical qui s'est prolongé, ça arrive malheureusement, mais je vais le laisser se poser tranquillement, je vais donner la parole à Isabelle Hardy. Alors, quitter X ou y rester? D'abord, est-ce que vous y êtes vous-même?
Alors, j'y suis. Mais tout d'abord, là aussi, comme tout à l'heure, j'ai envie de prendre un peu de recul, et moi, tout ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui m'effraie. Et ça dépasse la problématique de X. Ils ont quand même élu un homme qui est menteur, violent, manipulateur, raciste, sexiste. Bon, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, les alliances entre Trump et des grands patrons de plateformes de réseaux sociaux comme Elon Musk, mais aussi quand même Mark Zuckerberg, puisqu'il faut le souligner, hein, qui est patron de Meta, qui regroupe, oui, qui lui fait quand même un petit peu allégeance pour l'instant.
Et donc, il y en aura peut-être d'autres.
Voilà. Et donc, c'est quand même Meta, c'est Facebook, WhatsApp, oui. Instagram. Mais il y a aussi Jeff Bezos, parce que Jeff Bezos, il a Amazon, mais il a aussi le Washington Post. Donc, tout ça, ça fait planer un grand risque quand même sur l'accès à de l'information fiable. Mm. Ce sont des multimilliardaires, hein, et Joe Biden, en fait, les appelle très justement une oligarchie faite d'extrême richesse, de pouvoir et d'influence. Et ça fait quand même courir un risque à la démocratie sur le plan mondial. En Europe et en France, et en France, on ne sera pas épargné. Alors, il y a beaucoup de journalistes, vous l'avez dit, de médias comme Le Monde, qui ont décidé de suspendre leur implication pour l'instant, je le comprends.
Même les éditions Gallimard.
Oui, ouais. Mais c'est vrai, je le comprends, parce qu'on est à l'opposé de ce qui fait un travail de journaliste, d'enquête, de vérification des sources, de contradictoire. Bon. Alors, finalement, pour moi, la question, c'est pas faut-il quitter X, mais quand ? Pour l'instant, moi, je
à court terme, voilà,
j'y
aussi.
Reste. Je pense qu'il faudra le quitter. Bon, après, il y a la question aussi de l'Union européenne. Voilà. Est-ce que l'Union européenne va être capable de protéger le débat public, de doter de règles ? Mais par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que, en fait, c'est un choix qui est complexe pour l'instant. Ouais. Donc, c'est-à-dire que soit on part. Et on va aller chercher des contre-pouvoirs ailleurs. On dit haut et fort qu'on n'accepte pas les politiques extrêmes qui sont mises en place. Soit on reste, parce que c'est un moyen de lutter de l'intérieur et de montrer que les puissants ne nous font pas taire.
Alors, justement, ce sens, il y a Marine Tondelier qui, au départ, avait demandé à tous les députés du Nouveau Front Populaire de quitter X. Et puis, elle a choisi de rester. Il ne faut pas abandonner le combat. Voilà, elle est restée.
Alors, nous avons des lois pour lutter contre certains contenus. Et Dieu sait si c'est compliqué de lutter contre ces contenus. Alors, avec ces grosses machines, ça s'appelle des rouleaux compresseurs milliardaires, c'est sûr que vérifier les contenus, c'est compliqué. Mais c'est là aussi, par rapport à ce que disait Isabelle, c'est que, bon, il y a Trump, donc on ne fait pas le débat ce soir sur Trump. Et donc, c'est là où, pour moi, l'Europe doit être solide et solidaire, parce que ce ne sera pas que sur ce sujet. Ça va être sur plein de sujets.
Non, avec celui-ci.
Voilà. Ça, donc, c'est pour ça que moi, comme je l'ai dit, à court terme, je reste.
Vous restez, mais vous êtes vigilante comme Isabelle Hardy. Alors, Pierre Esplugas, vous êtes professeur de droit en plus.
Voilà.
Ça va être doublement intéressant, votre avis sur la question. Alors, je ne sais pas si vous-même vous êtes sur X, mais toute cette campagne qui est arrivée récemment avec des gens qui nous demandent, qui disent qu'ils vont quitter X et qui demandent à ceux qui les suivent de quitter X également, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors d'abord, je vous renouvelle mes excuses pour mon arrivée excessivement tardive, mais quand on a un rendez-vous médical avec un médecin spécialiste, vu le nombre de médecins spécialistes et le délai d'attente, on le garde. Bref, je dis souvent, dans ma philosophie, moi je suis un libéral. Et donc, si c'est la liberté de ceux qui veulent quitter X, s'ils veulent quitter X, qu'ils quittent X, il n'y a pas de problème. Et ceux qui veulent y rester, ils restent. J'avoue que je m'insurge un petit peu parfois contre une forme de bien-pensance, comme quoi il y aurait des médias mainstream, des médias bien-pensants et des médias mal-pensants. La réponse, oui, je suis sur X parce que tout simplement, c'est un média qui me convient. Pourquoi c'est un média qui me convient ? Parce que c'est un média, je dirais, de décideurs. Ce n'est pas l'agora, le pugilat permanent que l'on croit lorsqu'on n'est pas sur X, mais lorsqu'il suffit juste de choisir les comptes auxquels on est abonné. Moi, je suis abonné notamment au compte de décideurs, je suis abonné au compte de François Laborde, je suis abonné au compte d'Isabelle Zéchardi, parce que cela m'intéresse de connaître leur activité, comme je suis, comme certainement ils sont abonnés, elles sont abonnées, pardon, à mon propre compte. Donc cela permet d'avoir accès au passage à une information locale qui est moins forte que lorsque j'étais jeune étudiant, puisque les médias locaux étaient plus nombreux.
Oui.
Il y avait Sud Radio, il y avait
Télé
Toulouse.
Oui, oui, oui.
Peut-être la Dépêche du Midi avait une puissance plus grande qu'elle n'a aujourd'hui. Et donc, l'accès à l'information locale est peut-être plus difficile aujourd'hui. Et précisément, par le biais de ex-Twitter X, on peut avoir accès à cette information locale. Pourquoi j'aime bien Twitter ? Par opposition, finalement, à d'autres réseaux sociaux. Et je pense en particulier à Instagram. C'est-à-dire que Instagram, c'est, pardonnez-moi de la caricature, c'est le média narcissique où on explique, regardez les vacances merveilleuses que je passe pendant que vous, vous êtes à Toulouse en train d'avoir froid et de vous geler. On ne trouve pas ça sur Twitter. Ça peut être un média d'information. Et en tant que média d'information, cela m'a satisfait. Une fois que j'ai dit ça, je constate que depuis qu'Elon Musk a pris l'actionnariat majoritaire de X, eh bien, j'ai le compte d'Elon Musk qui me remonte sans que je l'ai demandé.
Voilà.
Ça m'agace.
J'ai
même,
souci,
de manière un peu inexpliquée, ce qui m'agace profondément, des comptes complotistes qui me remontent sans que je ne l'ai demandé. Et ça, ça ne me va pas du tout, du tout, du tout. Mais hormis cette réserve importante-là, je considère que c'est pour moi un média d'information. Et je le redis, c'est ma liberté d'y rester comme c'est la liberté de ceux qui veulent en partir, d'en partir.
Alors, Isabelle Hardy a fait allusion, les ingérences de milliardaires dans la vie publique, la vie politique, leur présence, leur pouvoir dans les médias. Bon, maintenant, tout le monde est au courant, c'est monnaie courante dans notre pays, même sur l'ensemble de la planète. Est-ce qu'on doit considérer que celle d'Elon Musk est plus inquiétante que les autres du fait qu'elle concerne un des principaux réseaux sociaux existants actuellement ? Françoise Laborde.
Alors moi, je partage ce qu'a dit Pierre, mais parce que justement, il est inadmissible que sous prétexte qu'Elon Musk, c'est lui, Monsieur X, entre autres, on ait des comptes auxquels on ne s'est jamais abonné et qui remontent régulièrement et qui viennent encombrer. Quand j'allume X, j'ai pas envie d'avoir des gens qui me parlent.
Ça n'existe pas sur d'autres réseaux sociaux.
Ah, j'en sais rien. Moi, je suis pas très réseaux sociaux. Je suis un petit peu sur
Facebook. On voit parfois remonter des choses aussi. Bon.
Mais voilà. Donc là, c'est vrai que c'est gênant parce que je trouve que c'est plus fréquent qu'avant. Et ça, voilà. Et moi, par rapport à certains contenus, j'estime que il faut quand même continuer à surveiller certains contenus extrémistes, etc. Et qu'avec le côté libertaire, je suis gentille, d'Elon Musk, c'est moins surveillé. Voilà. Mais après, je suis complètement d'accord, pour l'instant, à court terme, je continue à y être, parce que justement, au niveau local, je regarde les...
Parce que tout simplement, ça t'intéresse. C'est voilà. Les choses qui t'intéressent. Voilà. Et le jour, ça ne t'intéressera plus, tu en partiras.
Voilà.
Oui, puis on a notre voilà. Critique quand même. On n'est pas sûr. Complètement...
Et puis, on est abonné à des personnes qu'on connaît, qui sont des amis, qui sont de droite, qui sont de gauche, qui sont du centre, qui sont de rien.
C'est une manière aussi de débattre.
Et ça permet... Voilà.
Isabelle et Françoise ont même des amis de droite.
Écoutez, et oui, mon cher Pierre.
Moi, je t'en doutais pas, mais...
Je ne sais pas si Pierre Spugas a des amis de gauche.
Mais si, puisqu'il nous a nous.
Ah bah si, vous êtes américain. Vous voyez, ça doit marcher. J'espère, ça marche dans les deux sens. Bon, voilà. Isabelle Hardy, ça vous inquiète plus que les autres quand même, Elon Musk?
Non, alors ça m'inquiète. Alors, plusieurs choses en réaction à ce qui a été dit. C'est vrai que moi, je trouve que ça très inquiétant. Moi aussi, j'ai remarqué qu'effectivement, j'avais le...
Des comptes qui remettent ça, voilà.
C'est inquiétant. Donc, c'est QFD, hein, je dirais. Donc, oui. C'est pas une mince affaire. Hein. Oui. C'est quand même, je pense, extrêmement dangereux. C'est pour ça que moi, la question n'est pas est-ce qu'il faut le quitter, mais c'est quand. Mais pour l'instant, effectivement... Et puis, voir aussi, on en parlera peut-être, des alternatives. Par rapport aux injonctions de « il faut quitter », etc.
Oui, il y en a alors, qui présentent ça comme des actes de résistance.
Ça me dérange pas. C'est un choix personnel, ça, voilà. Je l'affirme.
Ah oui, ça
mais ça ne me dérange pas parce que ça poursuit quand même un but vertueux. Et on sait que, bon, c'est un choix qui est comme tout choix qui est individuel et qui est personnel. Mais on sait que les combats, les luttes, si on veut les gagner, il faut engager des combats collectifs. Bon, en ce qui concerne ce combat-là, c'est tellement puissant que même collectivement, j'ai l'impression que encore aujourd'hui, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Et par rapport à votre question, on est au-delà, en fait, par rapport à Elon Musk, on est au-delà de ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
Tout à fait.
Ça touche quand même la liberté des médias, la liberté de la presse. Et en France, on n'est pas épargné. Aujourd'hui, quand on voit la concentration des médias... Et quand on voit avec la toute-puissance des milliardaires comme Bolloré, si je ne veux citer que lui, on se rend compte que ça va, aujourd'hui, oui, ce phénomène-là, va au-delà des réseaux sociaux, en fait.
Donc, je pourrais t'opposer la puissance du service public, France Inter, première radio...
Radio France.
Ça pose la question de la protection du service public.
Moi, ce qui me pose, c'est ici, pour France Inter, c'est la question de la neutralité du service public. Et France Inter fait défaut à cette neutralité. Donc, d'autres modes de pensée, ça ne me dérange pas.
Tu nous invites
une autre fois. Ce serait intéressant d'avoir un débat sur ce sujet-là, parce que là, on aura des avis qui seront différents. Je crois que c'est vrai que moi, je défends...
France Inter, aujourd'hui, tu es meilleur. Voilà, c'est comme ça, c'est tout.
Non, je considère que non.
Vous pensez qu'il y a la pluralité d'opinions sur France Inter? Sur Radio France. D'opinions, je parle des journalistes, des gens qui font les émissions.
Les gens qui font les émissions, non. La réponse est non.
C'est ça la question.
C'est 90% de gens de gauche. Bon, pourquoi pas, mais c'est un fait.
Oui, sauf que c'est financé avec l'argent public, c'est ça qui est un peu dérangeant.
Oui, mais aujourd'hui, c'est pas un média qui est orienté, non.
Ah, alors là, effectivement, je vois que vous n'êtes pas d'accord du tout sur le sujet.
On reviendra.
Oui, mais alors, Pierre Esplugas, je voulais revenir quand même à ceux qui présentent le fait de quitter X comme un acte de résistance. On a l'impression qu'ils font sauter des trains sous l'occupation.
La résistance, c'est pas ça. La résistance, c'est résister à Poutine.
C'est prendre des risques, physiques.
Quel risque de quitter X?
Je vois pas très bien.
Le terme résistance, gardons les mots pour...
je suis d'accord. L'utilisation des mots est parfois quand même...
C'est pas ça la résistance.
Non, mais la vraie question, c'est où est-ce qu'on est le plus efficace? Et je crois que vous parliez de Marine Tondelier, je pense que c'est la question qu'elle s'est posée, et chacun peut se la poser. Est-ce que je suis plus efficace en y restant?
Aujourd'hui, ça permet à différents courants d'opinion de s'exprimer. Toutes les deux, si vous pouvez poster des tweets sur X, et ça exprime votre opinion, mais c'est très bien ainsi. Voilà.
Puis encore Dieu merci, chacun peut faire son choix d'en partir, mais sans forcément demander à tous ceux qui y suivent de partir aussi. Il faut laisser les gens agir.
Je n'ai pas encore testé Blue Sky, je ne sais pas vous.
Mais... Oui, alors Blue Sky, voilà, il y a les gens qui vont sur Blue Sky.
Je vais le tenter.
Tout est question aussi d'audience. Je constate au passage que l'audience de X, au passage, n'est pas si importante que ça. C'est-à-dire que par rapport à Instagram, précisément, mais c'est le jour et la nuit. Pour donner un exemple, il se trouve que je suis présent à un abattoir et on est en train, en ce moment, vous le savez, de faire une exposition avec Oli.
Des musées des abattoirs.
Des musées des abattoirs, pardon. Oli de Big Flo et Oli. Lorsqu'il a fait une vidéo, il a posté 1 million de vues. Mais jamais on a s'assuré que ça. Ça règle vite le problème. Hein. C'est un peu, il y a une forme d'entre-soi, et je parle pour nous, les politiques, parce que sont sur X les politiques. Alors moi, ça m'intéresse ce que fait Isabelle Zéchardi ou Françoise Laborde, mais peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde. Pareil pour Pierre Espugaz Abattu, hein, je vous mets à l'aise. Donc il y a une forme un peu d'entre-soi, et c'est un débat entre nous sur quelque chose qui un objet qui est entre nous aussi.
Et les gens qui demandent à ceux qui les suivent de partir sur Blue Sky ou Mastodon, je ne sais pas, moi je ne connais pas tous ces réseaux. Là, mais justement, c'est pas un peu une manière de dire bah, restons entre gens de bonne compagnie et on est d'accord sur tout, donc on se retrouve entre nous sur un autre réseau. Après, cette façon de présenter les choses.
Moi, étant professeur de droit, je constate que les professeurs de droit sont sur X. Donc ça me permet, vous voyez, hier j'étais au Conseil constitutionnel un colloque. Ça me permet de communiquer sur cette participation à ce colloque.
Non, je pense que c'est une création d'une alternative que je ne connais pas, puisque je dis, mais pour moi, c'est la création d'une alternative. Alors ensuite, moi je ne suis pas prospectiviste, et puis surtout sur cette matière-là, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si quelqu'un, même les prospectivistes, peut savoir ce qui va se passer. Mais je le prends plus pour la création d'une alternative que sur de l'entre-soi.
Écoutez, bon, on fera un jour, je vous promets, on fera une émission sur justement le service public Radio France et même France Télévisions sur est-ce que la pluralité des représentations
de
politiques
le matin
est représentée sur ces chaînes
sur
radio
France 2,
télé.
C'est pas orienté.
Ça sera effectivement un très bon sujet pour
pensant.
Une prochaine mêlée. Cette 179e mêlée, elle est terminée. Merci beaucoup à vous trois d'y avoir participé. Bravo à Isabelle Hardy pour sa première dans cette émission. J'espère qu'il y en aura d'autres. Merci aussi à Coraline Camebra qui a encore parfaitement réalisé ce numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et merci enfin à vous tous qui nous avez écoutés. À la semaine prochaine.
Merci.
Merci. Au revoir. Et le masque.